qui est très connue, et donc c'est peut-être un rappel pour certains, mais nous allons parler de l'amour de Dieu au travers de deux textes de la parole. Le premier texte se trouve en Jean chapitre 3 et verset 16, et je vous le lis, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il y a un académicien qui est aujourd'hui disparu qui a dit ceci à propos de ce verset. « Car Dieu, celui qui aime le plus, a tant aimé le plus grand amour, le monde, la plus grande compagnie, qu'il a donné le plus bel acte, son Fils unique, le plus beau don, afin que quiconque, la plus grande occasion, croit en lui, le plus grand appel, ne périsse point, le plus grand avertissement, mais qu'il ait la plus grande certitude, la vie éternelle, la plus grande promesse. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et j'aimerais ajouter à ce texte un texte qui se trouve en Éphésiens. Et je vous lis juste le passage clé que je voudrais prendre ce matin avec vous, afin que vous puissiez comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Ce matin, nous allons parler de l'amour de Dieu. Et donc, nous avons fait référence à Dieu qui a donné son Fils unique. Et puis ici, l'apôtre Paul nous dit que nous devons comprendre cet amour pour ensuite l'expérimenter. Ce n'est pas simplement connaître l'amour de Dieu, mais l'expérimenter. Alors, j'aimerais vous laisser cette question ce matin. Est-ce qu'en fait, vous connaissez l'amour de Dieu? Est-ce que vous expérimentez ou vous avez expérimenté dans votre vie l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? La Bible dit « car Dieu a tant aimé le monde ». Et la Bible dit en fait que Dieu est la source de l'amour. En fait, puisque Dieu est éternel, on peut comprendre que son amour est éternel. Car Dieu a tant aimé le monde. Et j'aimerais dire ceci de suite, que c'est lui qui a initié ce désir de sauver les hommes. Pourquoi? Parce que les hommes sont perdus. Dieu manifeste son amour et la Bible dit qu'il le fait de façon extraordinaire, même avant que nous soyons nés, Dieu avait déjà commencé à nous aimer. La preuve, en Romains chapitre 5, l'apôtre Paul de dire « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Le jour où on découvre cet amour, on découvre aussi que Dieu nous a aimés dès notre naissance, même avant qu'on l'accepte au travers de Jésus-Christ, que même lorsque nous faisions les pires choses, Dieu avait toujours un regard d'amour envers chacun de nous. C'est bien un acte qui vient de Dieu. La Bible dit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Que veut dire ce texte ici? C'est que Dieu nous a aimés avant même que nous puissions nous adresser à lui. Je me souviens, la plupart ici, vous savez que nous avons 6 enfants, dont 5 garçons, et nous avons remarqué que le soir en nous couchant, c'était certainement un des meilleurs moments de parler à nos enfants au sujet des choses spirituelles, et on était surpris de voir toutes les questions ou les commentaires qu'ils faisaient. Et un jour, un de nos enfants, tout jeune, je ne sais pas, il avait 4-5 ans, comme ça, il nous dit, alors Dieu nous aime, et puis après on l'aime. Dieu nous aime, et puis après on l'aime. Mais je trouvais ça tout très profond. C'était tellement logique. On ne peut aimer quelqu'un que lorsqu'il s'est révélé. En fait, cet enfant disait, Dieu nous aime, et parce qu'il nous a révélé son amour, alors à notre tour, on peut l'aimer. La bonne nouvelle, c'est que son amour est éternel. Cela montre la longueur de l'amour de Dieu. Dieu n'a jamais cessé d'aimer. Les pires hommes, j'allais dire, et même de toute éternité au travers des siècles, Dieu aime les créatures qu'il a créées d'un amour divin. C'est un amour extraordinaire. Il a créé le monde avec amour, la création. Il a donné la conscience d'un homme pour chercher les choses de Dieu, même la pensée de l'éternité. Il a donné sa parole inspirée. Il a donné son Fils Jésus-Christ. Il a donné son esprit qui convainc l'homme de péché, de justice et de jugement. Et il a prouvé son amour de ce que lui d'abord s'est manifesté en donnant son Fils. Parce qu'il est omnipuissant, parce qu'il est omniscient et parce qu'il est omniprésent, l'amour de Dieu peut parfaitement se révéler dans chaque personne parce qu'il connaît chaque personne. Avez-vous besoin de l'amour de Dieu ? Sachez qu'il est tout puissant pour vous l'accorder. Il sait exactement de quoi vous êtes fait, il vous connaît. Il n'a jamais cessé de vous aimer. Il sait toutes choses sur vous. Même si vous avez envie peut-être un peu de vous cacher devant lui et de fuir, sachez que lui, il vient vers vous et il l'a manifesté. Dieu est la source de l'amour et son amour est éternel. La Bible dit donc et ajoute dans ce texte au chapitre 3, verset 16 de l'évangile de Jean, « Car Dieu a tant aimé le monde, a tant aimé. » Ça, c'est la mesure de l'amour de Dieu. Dieu s'intéresse à tous les êtres qu'il a créés. En fait, tous ses actes sont liés à son amour. Et son amour est inconditionnel. On va voir. Dans l'éducation des enfants, il y a parfois des parents qui manipulent leurs enfants et qui essayent d'avoir l'amour de leurs enfants conditionnellement à leur obéissance. Voilà, si tu fais cela, ou si tu dis cela, ou si tu fais ce que je te dis, alors je vais t'aimer. Mais vous savez, Dieu n'est pas du tout comme cela. Dieu aime parce qu'il aime. Il n'y a pas un amour conditionnel à ce que nous fassions quelque chose qui lui soit agréable, parce qu'il sait de quoi on est fait. Et on ne vaut pas grand-chose. Mais la Bible dit qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. On ne peut pas dissocier l'amour de la justice de Dieu. Laissez-moi, en quelques termes, j'espère, assez clair, vous expliquer cela. Dieu est parfait, l'homme est imparfait. Dieu veut que les hommes aillent au ciel, un ciel parfait. Mais comment des hommes imparfaits peuvent-ils rentrer au ciel qui est parfait, sans rendre le ciel imparfait? Il faut que Dieu, donc, rende, ou plutôt, dans une première étape, déclare l'homme parfait. Mais Dieu sait bien que l'homme est imparfait. Comment peut-il déclarer quelqu'un de parfait qui est parfaitement imparfait et corrompu? Mais la façon avec laquelle Dieu l'a fait, c'est qu'il a placé entre lui et l'homme pécheur son Fils Jésus-Christ. Ainsi, la justice de Dieu s'est accomplie en une seule personne, pas au travers des créatures de ce monde, à une seule personne qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est mort sur la croix a pris nos péchés. Il a englouti non seulement nos péchés, la puissance du péché, mais les conséquences de nos péchés et l'enfer. La malédiction qui devait tomber sur nous est tombée sur le Christ. Il est écrit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Parce qu'à ce moment-là, Dieu le Père a voilé sa présence au Fils. Comme séparé de Dieu, le Fils a subi le châtiment, la séparation, l'enfer à notre place, afin que nous puissions être justifiés devant Dieu. Non pas à cause de nos œuvres, mais seulement par la foi dans la personne de Jésus-Christ, parce que sur la croix, il a pris mes péchés. Donc voyez-vous, l'amour de Dieu n'est pas aveugle par rapport à sa justice, à sa sainteté qui est exigeante. Mais l'amour de Dieu couvre le péché des hommes parce que Dieu a eu un plan de justice qui nous dépasse. C'est que Christ a été fait pour nous, justification. En fait, j'aimerais vous donner une illustration, un petit peu pour montrer que quand on aime, on donne. Tant aimer, comment nous aimons ? Alors, on doit aimer quand on fait des cadeaux, certainement selon nos moyens. Hein ? Mais je me souviens, je vous donne cette illustration pour montrer cela. J'étais très jeune, je n'avais pas encore de vélo. Et à Noël, j'avais parfois un ballon de foot, un ballon de basket, c'était notre cadeau. Mais j'avais toujours rêvé d'avoir un vélo. Et je passais, en revenant de l'école Émilie de Roda, qui n'est pas loin d'ici, je passais devant un magasin de vélo. Et là, je voyais un vélo vert, de course, avec, imaginez-vous, les guidons arrondis, avec les freins extraordinaires et plusieurs vitesses. Je me dis, waouh, ça c'est le vélo que j'aimerais avoir. Oh, il se trouve que j'ai deux oncles qui étaient tous les deux avocats en Afrique. Alors, ils revenaient dans leur séjour en France et ils aimaient bien leurs neveux et ils nous gâtaient. Et j'aimais mes deux oncles. Mais imaginez un jour mon oncle qui me prend par la main, un des deux, qui s'appelait Léon, pour rien vous cacher, et qui m'amène devant le magasin et qui me dit « Michel, voudrais-tu quelque chose ?» Oh, mes yeux grands ouverts, je dis « Oh oui, je voudrais ce vélo !» Et il m'a acheté le vélo de mes rêves. Et en sortant, je me disais « Oh, qu'est-ce que mon oncle m'aime ! Il m'a acheté le vélo dont je rêvais, un beau vélo ! Imaginez ce vélo extraordinaire que j'avais attendu pendant longtemps et c'est mon oncle qui me l'avait acheté. Il m'aimait vraiment. Voyez-vous, quelque part, la mesure de son amour était ce qu'il avait donné. Alors c'est humain cela, mais savez-vous que Dieu a donné son Fils ? Dieu a donné son Fils. Quel cadeau ! Est-ce qu'en retour, nous pouvons l'aimer, nous tourner vers lui et comprendre ce sens de la profondeur de l'amour de Dieu ? Une autre petite anecdote, en ayant 6 enfants, les Noëls n'étaient pas toujours... Enfin, c'était beaucoup de travail, on va dire. Et puis, il fallait vraiment prévoir que chaque enfant ait un cadeau, et puis un beau cadeau quand même. Et donc, chaque Noël, c'était un défi. On avait un magnifique arbre de Noël, et puis les cadeaux étaient là, 2-3 jours à l'avance, certains cachés parce qu'un peu trop visibles. Et c'était une grande fête chez nous. On était loin de la maison, les uns et les autres. Donc, chez nous, c'était loin de nos familles. C'était vraiment un temps spécial. Mais on veillait à ce que chacun ait le même cadeau. Enfin, pour eux, la même valeur. La bonne nouvelle, c'est que quand Dieu donne, c'est un cadeau qu'il fait à chacun de la même valeur. Il n'y a pas certains qui devraient recevoir le cadeau et pas d'autres. Le même cadeau est donné à chacun parce que Dieu nous aime de façon identique. Il nous aime d'un même amour. Il n'y a pas un être sur la terre qui ne soit aimé de Dieu, quel qu'il soit. Dans quelles conditions qu'il soit, Dieu a tant aimé. C'est sa mesure qu'il est capable d'aimer chacun. Alors je reprends mon histoire des enfants, excusez ce matin, mais après 6 quand même ça faisait pas mal. Un deuxième, et comment on va faire pour aimer le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième ? Bon, Dieu a donné cet amour, mais on n'est pas illimité, n'est-ce pas, dans sa capacité d'aimer. Mais Dieu, la bonne nouvelle, c'est qu'il nous visite ce matin, l'un après l'autre, et puis il est capable de nous aimer d'un même amour, d'une même intensité. C'est extraordinaire. On est des milliards sur la terre. Dieu aime chaque créature de la même façon. C'est merveilleux cela de recevoir un cadeau comme cela, l'amour de Dieu. La Bible dit « Dieu a tant aimé le monde ». Et ça, ça nous parle de la largeur de l'amour de Dieu. Le monde entier. Il n'y a pas d'être humain que Dieu n'aime pas. Encore une fois, son amour est illimité, il est infini, il est constant, il ne varie pas. Il est comme la constante solaire en dessous des nuages. Le soleil, dans son intensité, ne varie pas et Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne varie pas dans son amour. Et ça veut dire qu'il aime tout être humain, le plus déchu, le plus blasphémateur, le plus rebelle, le plus impur, le plus voleur, le plus menteur. Il aime chacun. Je me souviens avoir lu une anecdote d'un homme dans un pays qui arguait Dieu. Et dans les Pères Noël, il disait, mais alors, Dieu, il allait dans la rue, si tu existes, montre que tu existes, enlève-moi la vie, prouve à tout ce monde qui m'écoute que tu existes. Mais vous savez, ça c'est tenter Dieu. Et par amour, Dieu n'a jamais fait cela. Mais Dieu aurait pu le faire. Mais Dieu n'est pas un Dieu de vengeance. Dieu est un Dieu d'amour. Vous savez, les hommes sont rebelles. Nous avons dans notre nature une rébellion profonde contre les choses de Dieu et contre Dieu, parce que notre nature est rebelle par essence contre Dieu. Et pourtant, Dieu, au travers des âges, a toujours aimé. Au travers des siècles, il a toujours aimé les hommes. Dans le passé, dans le présent et dans l'avenir, Dieu aime. Et dans le temps présent, il ne fait point exception de personne. Il aime sans distinction de race. Il n'y a pas une race plus aimée qu'une autre. Il n'y a pas de distinction pour Dieu par rapport à la culture. Dieu aime chacun. Là où il se trouve, peu importe le lieu géographique, même le plus petit, j'allais dire, perdu dans une forêt amazonienne, Dieu sait qui il est, Dieu sait. Alors, je ne sais pas comment il fait, mais la Bible dit qu'il connaît jusqu'au nombre de nos cheveux à chacun. Je ne sais pas comment Dieu s'y prend. Mais ça veut dire que si c'est ça, il sait beaucoup de choses. Ça veut dire que rien ne lui échappe. Ce que vous vivez, ce que vous ressentez, vos peurs, vos angoisses, vos difficultés, vos impasses, Dieu les connaît. Il est celui qui connaît le passé, il connaît votre présent, puis il a un avenir pour vous. Un avenir qui peut être imbibé de son amour, parce qu'il est amour, il veut révéler son amour. Et là, il l'a prouvé. Il l'a prouvé de façon extraordinaire, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Même avant que nous l'acceptions, Dieu déjà nous aimait. C'est un peu les parents aussi, même avant qu'un enfant naisse, je pense que les parents aiment leur enfant. Et c'est pareil avec Dieu. Dieu, à partir du moment où on est né, et même dès la fondation du monde, Dieu déjà avait commencé de nous aimer, et chacun de nous. C'est-à-dire, moi, Dieu m'aime, oui. Il n'aime pas que simplement le monde. Il aime aussi chaque créature, chaque personne. Il n'est pas celui qui voit le monde de loin comme une masse, mais il voit le monde composé d'individus, et il connaît chaque individu. Là maintenant, nous allons voir dans une autre dimension de Dieu. Il est écrit qu'il a donné son Fils unique. On a parlé de l'amour éternel, sa longueur, de la largeur de l'amour de Dieu, le monde. Et là, on va parler de la profondeur de l'amour de Dieu. La profondeur, c'est par exemple la profondeur d'un puits. Vous regardez le fond, vous dites, oh là, c'est profond. C'est la distance parcourue du haut vers le bas. Eh bien, c'est la distance qu'a parcouru Jésus-Christ du ciel vers la terre. Il est descendu du ciel. La Bible dit ceci, écoutez-moi bien. C'est un des plus beaux passages qui montre l'amour de Dieu en Christ. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Dieu s'est dépouillé de quoi ? En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Dieu s'est incarné en Jésus-Christ, homme, Dieu, Dieu fait homme. Il s'est dépouillé du ciel, de la gloire éternelle, pour revêtir la forme d'un homme. Quelle humiliation ! Et devenir qui plus est un serviteur, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Toutes ces étapes ici, nous n'avons pas le temps de regarder chaque étape de l'humiliation de Jésus-Christ dans ce passage. Mais Dieu est descendu du ciel, a traversé les cieux, depuis le troisième ciel, le trône de Dieu. Il a traversé tous les cieux, venir sur la terre pour manifester son amour. Vous savez, un jour, Dieu a demandé quelque chose de terrible à un homme de Dieu qui s'appelait Abraham. Il lui a dit, voilà, va et sacrifie ton fils, ton unique. Vous savez qu'Abraham, sa femme étant stérile, Dieu lui avait dit que de lui naîtrait une postérité, de laquelle serait issu d'ailleurs le Christ, le Messie, le Messiaque promis. Mais avancé en âge, autant lui que son épouse, ils se sont demandé vraiment s'ils pourraient avoir un enfant. Et Dieu a fait ce miracle. Et un jour, Dieu a testé la foi d'Abraham en disant « Va, sacrifie ton fils ». Et la Bible dit qu'il avait comme recouvert de la résurrection parce qu'il croyait vraiment au fils de la promesse. Et s'il avait dû vraiment le tuer, il a pensé que Dieu allait le ressusciter. Mais Dieu a testé un homme pour voir s'il était prêt à sacrifier son propre fils par une obéissance. Et c'est le type de ce que Dieu le Père un jour a fait en sacrifiant son fils unique, Jésus-Christ. Il y a un peintre qui s'appelle Salvador Dali, on ne va pas parler de sa vie, ce n'est pas l'objet de notre discours, mais c'est un peintre qui a fait une chose qu'aucun peintre, à ma connaissance, n'a faite. Il a peint le Christ crucifié d'en haut. Nous voyons souvent le Christ crucifié d'une façon horizontale, c'est-à-dire ce qu'il a fait pour nous, et nous, de le voir crucifié, d'être convaincus que c'est notre péché qu'il a fait. Et nous sommes convaincus de péché parce que nous l'avons injustement crucifié, lui qui était parfait. Mais nous oublions de penser à Dieu le Père, celui qui du haut des cieux a vu son Fils marcher sur la terre en train de guérir les malades, de nourrir les foules, d'enseigner, d'instruire, de chasser les démons, qui n'a fait que du bien sur la terre et qui pourtant a été injurié, blasphémé et crucifié. Sa colère aurait pu descendre sur la terre, mais sa colère est descendue sur cette crucifixion afin que la malédiction tombe sur son fils. Mais le Père du haut des cieux a vu le fils crucifié en train d'agoniser par amour des hommes. C'est pour ça qu'il est terrible de tomber entre les mains de Dieu sans passer par Jésus-Christ. Parce que c'est le seul acte qui sauve. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est en lui seul qu'on peut placer sa confiance, parce que c'est le plan de Dieu d'avoir donné son Fils. Mais quelle séparation a subi le Fils envers le Père à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et quel sacrifice dans le cœur du Père de devoir abandonner un instant son Fils afin que le monde soit sauvé. Il a donné son Fils unique. Il l'a fait du haut des cieux. Il a accepté d'être séparé avec Dieu le Fils. Ça nous échappe, cela, quelque part, pour en comprendre la profondeur. Vous doutez que Dieu vous aime? Il a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils, afin que vous, vous puissiez comprendre, expérimenter son amour. Une autre dimension se trouve ici, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque... Moi, je trouve que c'est en partie la largeur de l'amour de Dieu. Dieu aime quiconque. Vous êtes l'objet de l'amour de Dieu. Cet amour s'adresse à vous. En fait, qui sommes-nous? Qui êtes-vous? Eh bien, ce n'est pas une bonne nouvelle parce que la Bible dit qu'on est comme mort. On n'aime pas parler de la mort. J'ai dû aller en 15 jours à 2 enterrements et ma femme à 3. Et personne n'aime faire face à la mort. On voit les familles effondrées, on voit les familles... Voilà. Et donc, mais il y a une mort qui est plus terrible devant Dieu. C'est la mort spirituelle. C'est la séparation d'avec Dieu. Parce qu'on peut être une créature de Dieu sans être un enfant de Dieu. On peut vivre sur cette terre, passer son temps sur la terre et puis entrer dans l'éternité sans Dieu. Alors la mort spirituelle, c'est ce que décrit par exemple l'apôtre Paul. Il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le train de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Mort parce que séparé de la présence de Dieu, mais quelque part bien vivant dans les ténèbres du dehors, les ténèbres de l'adversaire. Et nous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère. Dieu voit l'être humain comme quelqu'un qui est un enfant de colère, une créature. Et oui, parce qu'il y a eu la chute. depuis Adam et Ève, l'homme est entré dans la rébellion contre Dieu. Eh bien, la bonne nouvelle, écoutez-moi bien ce que je dis là. La bonne nouvelle, c'est que cela est bon et agréable devant Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Moi, je m'accroche à ce verset. Qu'est-ce que j'aime ce verset ? Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous ne sommes pas prédestinés à aller en enfer. Nous sommes prédestinés à aller au ciel. Et cela est bon et agréable devant Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, et on peut dire de son amour. Car il n'y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Voilà, Dieu a fait ce cadeau. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. À Noël, lorsqu'on va vous donner un cadeau, enfin, je suppose, chacun, vous allez avoir un cadeau. Hein ? En tout cas, si vous n'avez pas un cadeau, venez me voir. Quelque part, on trouvera bien un cadeau. Partez pas sans cadeau. Mais le plus beau cadeau, c'est Jésus-Christ, vous avez compris. Mais quand vous allez recevoir un cadeau, vous allez dire, ah oui, combien l'as-tu payé là ? Je peux te rembourser ? Ah non, non, moi je ne prends pas le cadeau, moi. Attends, tu dis, tu ne crois pas que je l'ai fait avec affection et quand... Non, non, moi, les cadeaux... Attendez, ça vous arrive de refuser un cadeau ? Voilà. Peut-être on peut l'accompagner. Alors, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais il y a une condition à cela, c'est de croire. C'est de croire. La Bible dit qu'il y a une condition à recevoir l'amour de Dieu, c'est la foi. C'est de dire oui au cadeau. Voilà. Et c'est la condition pour connaître l'amour de Dieu. Alors, on va aller un petit peu plus loin. En fait, qu'est-ce que c'est que croire ? Croire, c'est synonyme de faire conscience, de faire confiance sans réserve. C'est plus qu'une adhésion intellectuelle. Vous savez, il y a des gens qui ont même lu la Bible, mais qui n'ont pas cru et découvert l'amour de Dieu. C'est pour ça que, par exemple, quand Nicodème a rencontré Jésus, il a dit, toi, le docteur de la loi, tu ne sais pas ces choses, il faut naître de nouveau. Il faut naître d'eau, la parole et l'Esprit, l'Esprit Saint. J'aimerais vous donner trois étapes d'une vraie foi. Parce qu'un tel cadeau, la vie éternelle, le salut en Jésus-Christ, est-ce qu'il peut se refuser ? Et pourtant, il y a des hommes qui le refusent. Alors j'aimerais vous donner ces trois étapes qui me semblent toutes simples. Premièrement, on ne peut pas expérimenter l'amour de Dieu, être sauvé, sans connaître que Dieu nous aime. Maintenant, vous le savez, puisqu'on en a parlé ce matin. Maintenant, il faut plus que le savoir. Il faut y adhérer, dire oui, c'est vrai cela. Donc, c'est une adhésion du cœur qui dit oui, Dieu est vivant et Dieu a vraiment donné son Fils et je dois croire. Donc, savoir, adhérer, mais ce n'est pas suffisant. Il y a vraiment des gens qui savent que Dieu les aime, qui savent que Jésus-Christ est mort à la croix, qu'il est le Fils de Dieu. Maintenant, il reste une étape, c'est le recevoir. C'est de dire, Seigneur Jésus, entre en moi, sauve-moi, donne-moi la vie éternelle, je te donne ma vie, purifie mon cœur. C'est faire vraiment une expérience personnelle avec le Fils de Dieu. Parce que la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à tous ceux qui l'ont reçu. Alors, recevoir qui ? Vous savez, il y a des gens qui pensent, mais moi, si je fais assez d'œuvres, ou si je suis fidèle à ma religion, si je fais assez de choses pour plaire à Dieu, alors je pourrais être sauvé, connaître l'amour de Dieu et entrer au ciel. Alors, ils seront peut-être déçus. Parce qu'on ne va pas au ciel en se confiant dans une religion, si bonne soit-elle en apparence. Mais on va au ciel lorsqu'on se confie à une personne qui est Jésus-Christ. Laissez-moi vous lire le passage un petit peu plus loin qui dit en Jean chapitre 3, donc juste après le verset 17, « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Dieu ne veut pas nous juger, mais nous sauver. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » À un moment donné, quand on a commencé à me parler des choses spirituelles, je me suis dit, mais pourquoi pas Bouddha ? Pourquoi pas Krishna ? pourquoi pas Mahomet ? Et quelque part, je me disais, mais simplement Jésus-Christ, c'est sectaire. Puis c'est à la mode de ne pas être sectaire, non, d'avoir l'esprit large. Jusqu'à ce que je tombe sur ce verset qui dit ceci. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Jésus-Christ est le seul qui peut vous sauver, vous donner la vie éternelle. Il n'y en a pas d'autre. Pourquoi ? Regardez ce qu'il a dit lui-même. Il a dit « Je suis le pain de vie, il peut nous nourrir. Je suis la lumière du monde, il peut nous éclairer. Je suis la peau des brebis, il peut devenir notre sécurité. Je suis le bon berger, il est celui qui veut nous guider, protéger, conduire. Je suis le vrai cep, il est celui en qui on peut demeurer. Je suis l'alpha et l'oméga, c'est celui qui a commencé toute chose, qui finit toute chose, en qui on peut faire toute confiance. Il est souverain et maître de toute chose. Il a dit aussi, pour terminer, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Il est le seul chemin. Il est la vérité unique et sûre dans laquelle nous pouvons nous placer. Il est celui qui accorde la vie et on ne peut aller au Père que par lui. Parce que ça, c'est le plan de Dieu. Alors, allons un petit peu plus loin. Il est écrit ici « Crois en lui ». Donc, on a notre responsabilité, c'est de croire dans une personne. Ne périsse point. Il y a parfois une méconnaissance des Écritures et des gens pensent de toute façon. Et des gens pensent, sans avoir lu la Bible d'ailleurs aussi, « Oh ben moi, vous savez, la mort, je ne crains pas parce que le jour où je meurs, tout est terminé. » C'est faux. Tout commence. Et c'est l'éternité qui commence. La vie sur terre, à part du temps de Mathusalem, etc., ceux qui ont vécu 100 ans, 200 ans, 1000 ans, c'était déjà pas mal. Puis Dieu a fixé l'âge sur la terre des hommes, après 120 ans. Et puis maintenant, on vit, il y a des statistiques qui montrent les femmes vivent tant d'années, les hommes tant d'années. Je ne suis pas à jour là-dessus, mais on va dire dans les 80 ans, ce qui est pas mal. Hein, c'est loin d'être les statistiques du Moyen-Âge. Mais après la mort, tout commence. Tout commence vraiment. Parce que Dieu nous a destinés à l'éternité. Votre âme, mon âme, est immortelle. Et les gens qui pensent, quand je vais mourir, eh bien, ce sera la fin de tout, ce n'est pas vrai. Il y a dans la Bible un avertissement, parce que l'amour avertit. Des parents qui aiment leurs enfants les avertissent des dangers lorsqu'ils s'égarent. C'est normal. L'amour de Dieu est aussi averti, il nous dit qu'il y a un danger de ne pas être sauvé. Celui qui croit au Fils à la vie éternelle, celui qui ne croit pas, ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Le mot grec pour mort, ça signifie séparation. La mort physique, c'est la séparation de l'âme et du corps. C'est-à-dire que l'âme rejoint Dieu qui l'a créé parce que notre âme appartient à Dieu. Elle ne nous appartient pas. On ne s'appartient pas d'ailleurs. On n'a aucun pouvoir sur soi. La mort spirituelle sur la terre, c'est la séparation d'avec Dieu. Comme dit Paul à Éphésiens, vous étiez morts par vos offenses. Mais il y a quelque chose de plus terrible. C'est la seconde mort dont parle l'Apocalypse, qui est la séparation d'avec Dieu pour toujours. Vous savez, Jésus-Christ, il a dit des vérités qu'on doit vraiment souligner et connaître. Il a raconté l'histoire d'un homme qui s'appelait Lazare, qui était un pauvre mendiant, qui était souvent à la porte d'un riche. Mais un riche qui, la Bible nous dit, est un mauvais riche, qui ne prenait pas cas de ce pauvre. Pourtant, il vivait dans l'abondance, mais ce pauvre mendier, il avait des ulcères, même les chiens allaient lécher ses ulcères, il était vraiment dans une condition terrible. Il était pauvre, mais riche dans la foi, puisque la Bible nous dit qu'il était au ciel. Après la mort, Lazare était dans le sein d'Abraham, qui est le Sheol, le séjour des morts, la place en attendant le paradis. Et puis, il y avait ce mauvais riche qui dit ceci, qui a été jugé. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham. Et Lazare, dans son sein, il s'écria, « Père Abraham !» C'était un juif. « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. » car je souffre cruellement dans cette flamme. » Dieu nous avertit qu'il y a un danger. Vous savez, on n'aime pas trop les limitations de vitesse. Hein? Enfin, je suppose. Vous y avez peut-être, vous, une grâce spéciale. Vous n'êtes jamais pressé. Vous roulez toujours à la bonne vitesse. Et c'est formidable. Moi, je vous envie et je vous félicite si c'est le cas et c'est possible. Mais pourquoi est-ce qu'il y a un code de la route? Parce que si tout le monde ne respecte plus les croisements, les stops, les lumières, enfin les feux, les limitations de vitesse, il y a combien de morts par an d'accidents? La loi est faite pour nous protéger. Mais la loi de Dieu nous avertit. Tu peux vivre ta vie, tu peux brûler tous les feux rouges, tu peux marquer aucun stop, tu peux rouler à n'importe quelle vitesse. Mais un jour, tu devras rendre compte. Un jour, tu devras rendre compte. On ne peut pas vivre sans être regardé des autres, et surtout pas de Dieu. Et Dieu a établi lui-même les règles, c'est que nous n'avons pas en fait le choix. Parce que voilà ce que dit la Bible notamment, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs. Voyons voir que celui qui n'a jamais menti lève la main ici. Vous n'avez jamais menti ? Vous voulez dire, juste à l'instant, ou vous n'avez pas le courage de dire « j'ai jamais menti », ou alors qu'on est tous des menteurs ici, ou qu'on l'a été au moins une fois dans la vie? On l'a été. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Il suffit d'avoir commis un seul péché qui montre qu'on a la capacité de pécher pour être privé de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la Bible ajoute, mais pour les lâches, les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, on a déjà lu, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Je me souviens, bon, je vais le dire comme ça, une nuit où j'ai fait un cauchemar et où je voyais Jésus-Christ revenir, mais je ne savais pas qui il était. Il y avait plusieurs Christ, faux Christ. Et puis j'ai eu la pensée de l'éternité, tout d'un coup de me réveiller et de dire « Mais au fait, je ne suis pas sûr d'aller au ciel. » Et j'ai compris que si je n'étais pas sûr d'aller au ciel, c'est que je n'allais pas au ciel. On ne peut pas douter. Ou on est en route pour le ciel et l'Esprit Saint nous a communiqué en nous l'assurance du salut, ou on est en route pour l'enfer. Et la question de l'amour de Dieu qui vous presse ce matin, c'est « Sur quel chemin êtes-vous ? » Êtes-vous certain d'être sur le chemin qui mène au ciel? Ou êtes-vous en route vers l'éternité sans Dieu, sans Christ? Parce que Dieu a une promesse merveilleuse, on va terminer avec cela. Il est écrit, et je répète, « Car Dieu, la source de l'amour qui est éternel, a tant aimé la largeur, le monde, hein, la largeur de l'amour de Dieu, qu'il a donné son Fils unique, la profondeur de l'amour de Dieu, afin que quiconque, encore la largeur de l'amour de Dieu, croit en lui, la condition pour connaître l'amour de Dieu, ne périsse point, le danger de passer à côté de l'amour de Dieu, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça montre, mes amis, la hauteur de l'amour de Dieu. Dieu est descendu. Quelqu'un a dit, je pense, c'est Jung, un disciple de Freud, il a dit, l'homme a tendance à se faire Dieu, tandis que Dieu, un jour, s'est fait homme. C'est toute la différence. Mais par contre, un jour, vous allez entrer dans l'éternité si vous avez connu la vie donnée par Christ. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Pour entrer au ciel, avoir la vie éternelle et être sauvé pour toujours, cet amour qui nous élève est d'une hauteur extraordinaire. Nous qui étions comme des chenilles en train de ramper, on a parlé l'autre jour de nouvelle naissance. Il fait de nous des papillons qui s'envolons pour le ciel, l'éternité. Vous n'avez pas envie de vivre dans l'éternité avec Christ, avec Dieu, plus de larmes, plus de souffrances, plus, vous pouvez ajouter tellement de choses, nos conditions sur terre. Un repos éternel, celui qui a le Fils à la vie. Alors, ce cadeau a eu un prix. Et ce prix, vous n'avez jamais pu le payer. C'est le prix du sang de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est offert gratuitement envers celui qui s'approche de Dieu. Vous savez, On a tendance à cataloguer, excusez, les hommes en deux catégories. Il y a les pauvres, il y a les riches. Il y a les intelligents, les intellectuels, et puis les autres. Il y a les bien portants, il y a les malades. Il y a ceux qui sont coquets et ceux qui s'habillent toujours mal, etc., etc. Les chanceux et les malchanceux, vous avez compris l'idée. Il y a les gagnants, les winners, et puis les perdants, les losers. Ça, c'est un langage de jeunes. Mais Dieu ne voit pas les gens comme ça. Il y a les blancs et les noirs, au fait. Hein? Mais Dieu, lui, voit les perdus et les sauvés. Ceux qui sont en route pour le ciel, qui ont connu l'amour de Dieu, et ceux qui sont en route pour l'enfer. Mais Dieu vous aime. Dieu vous lance un appel ce matin. Connaissez-vous l'amour de Dieu? Il y a une réponse maintenant. Voulez-vous, qui est obligatoire, quelque part dans le cœur de l'homme, maintenant, voulez-vous connaître l'amour de Dieu? Connaître l'amour de Dieu, c'est d'avoir entendu tout ce que vous avez entendu ce matin. C'est suffisant quelque part. Maintenant, voulez-vous connaître l'amour de Dieu? Ça, c'est un acte de volonté. C'est choisir, volos en latin, choisir quelque part. Vous devez faire le choix de dire oui au Seigneur. Et la Bible dit, et j'achève avec cela, la Bible dit, voici, je me tiens à la porte. Et c'est Christ qui parle, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et quelqu'un a illustré cette vérité de la façon suivante. Il a dit, voilà, Jésus frappe, mais la poignée, il n'y en a pas de son côté. Il n'existe qu'une seule poignée qui est du côté de la personne de l'autre côté de la porte. La seule personne qui peut ouvrir la poignée, c'est nous, c'est vous. Jésus frappe à la porte du cœur et dit, voilà, entends-tu ma voix? C'est vrai ça? Est-ce que tu crois que je t'aime? Veux-tu connaître cet amour? Alors maintenant, tourne la poignée et ouvre la porte. J'entrerai. Prions, s'il vous plaît. Ô Père éternel, pendant que nous sommes dans une attitude de recueillement ce matin, de penser à ces choses qui nous dépassent tellement, et nous sentons tellement limités pour partager des choses aussi profondes, aussi éternelles, nous te demandons grâce ce matin parmi nous, Seigneur Jésus-Christ. Te demandons de nous visiter et s'il y a quelqu'un qui n'a pas l'assurance de son salut, qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas encore entré dans le royaume de Dieu, qui vit en dehors de ta présence, Seigneur Jésus, intervient. Mais que cette personne puisse dire dans son cœur, oui, Seigneur, ce cadeau de Noël, ce cadeau du don de la vie de Christ qui est mort à la croix pour moi, je le reçois maintenant. Dieu fait homme, je t'accepte dans mon cœur, je te reçois. Entre en moi, sauve-moi. Si c'est votre cas, dites-le au Seigneur. Entre en moi, sauve-moi. Pardonne mes péchés, donne-moi la vie. Pendant que nos têtes sont baissées, nous sommes dans un moment de recueillement. Il y a peut-être quelqu'un ici ce matin qui dit, oui, priez pour moi. Je ne suis pas sûr de connaître le Seigneur. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Pourriez-vous juste lever la main un instant et dire oui, priez pour moi. Nous qui sommes enfants de Dieu, engageons-nous à vivre de cet amour, à le partager autour de nous. Prions, Père éternel, demandons pour cette main levée que tu bénisses cette personne dans le nom de Christ. Et pitié, Seigneur, comme tu l'as eu pour nous. Glorifie ton nom. Agis dans ta bonté.